RMC. Lahaye, l'amour et vous, Brigitte Lahaye.
Tout de suite, vous n'aurez plus de raison d'être négatif puisque avec Yves-Alexandre Talman, nous voilà des conseils tout à fait positifs.
Bonjour Brigitte.
Vous êtes un positif, vous êtes né positif, vous êtes toujours positif ?
Absolument pas, non. Je crois même que je suis plutôt nostalgique. Non, j'ai appris à le devenir.
Eh ben, c'est bien ce qui me semblait, parce que c'est vrai que vous avez sorti un livre, un cahier d'exercice positif, hein, et j'ai l'impression, en effet, que c'est plus quelque chose que vous avez appris et que vous avez cultivé. Et c'est en ça que c'est intéressant d'avoir votre avis, justement. Comment on fait pour devenir plus positif ?
Ben oui, parce que ceux qui ont tiré le bon jeu de cartes à la naissance, c'est-à-dire les gènes du bonheur, pour peu qu'on puisse dire qu'ils
oui,
existent.
Ça, c'est pas sûr, mais bon.
Mais quoi qu'il en soit, on sait que certaines personnes sont avantagées de ce côté-là. Voilà, leur humeur est plus stable, elles sont moins stressées, moins anxieuses, etc. Quoi qu'il en soit, pour les autres, ben, il existe tout un ensemble de pistes très intéressantes qui ont été développées par la psychologie positive, notamment, pour apprendre à le devenir, je dirais même pour s'entraîner à le devenir.
Donc il faut en fait se contenter de ce qu'on a et enfin en tout cas être heureux de ce qu'on a plutôt que de vouloir toujours plus.
Voilà,
c'est la philosophie du positif.
Il faut est peut-être un petit peu fort, mais apprenons déjà à focaliser notre attention sur ce que nous avons, sur ce qui est beau, sur ce qui est bien dans notre vie, plutôt qu'à focaliser notre attention sur tous les malheurs, tous les pépins qu'on peut rencontrer.
Alors nous avons quelqu'un qui s'appelle Pascal, qui est avec nous, et elle a une vision du positif et du négatif qui est assez intéressante, c'est assez taoïste, je dirais. Bonjour Pascal.
Oui, bonjour Brigitte, bonjour Yves-Alexandre.
Bonjour.
Alors comme je dis toujours, il y a toujours du positif dans le négatif. Alors pour ma part, le côté négatif, c'est plus il y a de difficultés relationnelles dans mon couple, plus je perds l'estime de moi, et donc je m'éloigne de cette relation, et ça va jusqu'à la rupture. Alors, pour me servir de ça, pour rebondir à chaque fois, parce que là, dernièrement, j'ai eu encore une rupture de plus, que j'ai vécu difficilement, mais pour rebondir, pour voir ce côté positif, eh bien, finalement, ça va me servir pour faire vraiment un retour sur moi-même, prendre du recul, faire vraiment une pause, et une longue pause, pour pouvoir ensuite... dire plus positivement vers une relation prochaine, mais prendre ce temps-là.
Mmh. Mais peut-être que vous pouvez aussi positiver la rupture. S'il y a eu rupture, c'est peut-être parce que c'était pas un homme suffisamment bien ou c'était pas une entente suffisamment bonne. Enfin, je sais pas, hein, j'émets une hypothèse.
Ben dis donc, à chaque relation que je commence, dès qu'il y a la moindre difficulté, comme je vous disais au début, je prends ça comme un abandon de sa part, comme s'il m'aimait moins. Pour moi, c'est comme s'il n'y avait plus de positif, donc je vois tout en négatif. Donc, je préfère finir cette relation.
Oui, mais ça, c'est quand même une attitude un peu négative, Pascal.
Ah ben oui, complètement.
Vous êtes d'accord, Yves-Alexandre Talman ?
Oui, moi je rebondis sur l'idée de je ne vois plus que le négatif ou je vois plus que le positif. En fait, quand on est amoureux, on ne voit plus que le positif par définition. C'est bien une question de regard. Alors, il y a du négatif, il y a du positif dans toute chose. Alors ça, je le veux bien. Maintenant, où va mon regard et qu'est-ce que j'en fais ? Ceci dit, on peut toujours reprocher à l'autre de ne pas être aussi bien qu'on aimerait qu'il soit. Quand on commence à s'interroger sur soi-même, là je crois qu'on prend vraiment la leçon de ce qui s'est passé et ce qui peut nous amener à rebondir et puis aller de l'avant.
Oui, tout à fait. Voilà. C'est pour ça que je veux me servir, je ne veux plus refaire ce schéma-là, d'avoir toujours ce schéma-là dans la tête et de dire là, pour une fois, je vais au moins m'autoriser dans ma vie de me poser longuement pour pouvoir être mieux avec l'autre et améliorer ma relation avec l'autre.
Oui, mais je crois que Pascal, si vous vous posez longuement, ça sera peut-être pas si long que ça d'ailleurs, c'est peut-être d'essayer d'apprendre pourquoi vous avez besoin tout le temps de partir dès qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas tout à fait à votre idéal.
Oui, je sais que le point faible est là. Donc c'est pour faire ce travail-là, il faut que j'ai du recul. Si je suis toujours avec quelqu'un, je ne peux pas avoir ce recul-là vis-à-vis de moi, je pense. Je ne peux pas... disons que l'autre, après, va m'accaparer et je vais refaire ce même schéma à chaque fois.
Non, mais c'est normal ce qui vous arrive, Pascal. Ce qui n'est pas normal, en revanche, c'est de systématiquement partir. Mais être dans un état amoureux et voir l'autre tel qu'on imagine qu'il est et l'idéaliser, c'est quelque chose de tout à fait... Enfin, c'est un processus qu'on connaît bien et qui est normal. Après, on doit, c'est ce que disent d'ailleurs les sexothérapeutes, il faut tomber amoureux une deuxième fois. C'est-à-dire qu'il faut tomber amoureux de la personne telle qu'elle est réellement et non pas telle qu'on l'avait imaginée quand on l'a rencontrée. Et c'est ce deuxième processus que visiblement vous vous refusez. Oui, c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut que vous arriviez à comprendre, peut-être avec un thérapeute, pourquoi vous n'êtes pas capable d'accepter de vivre avec quelqu'un qui ne correspond, enfin, quand vous ouvrez les yeux, quoi. C'est-à-dire que quand l'état amoureux se termine, mais l'état amoureux il se termine toujours de toute façon.
Oui, donc peut-être que la pause, mais c'est peut-être pas ce bon chemin là, faire une pause, éloigner un petit peu de toute relation amoureuse, pouvoir justement un petit peu me restructurer et puis de. Parce qu'il y a peut-être des choses justement qui clochent en moi, hein. C'est pas toujours l'autre qui est forcément négatif, justement.
Maintenant, il n'est pas dit que ce soit préférable d'être seul pour travailler sur des aspects relationnels. On peut très bien les travailler en relation, lorsqu'ils apparaissent, lorsqu'on les vit en réalité.
Chose que j'ai toujours cru que c'était le contraire. Que justement, à multiplier les relations, parce que moi, au début, les relations se passent toujours très très bien, j'avais l'impression que je voyais plus vraiment clair, quoi.
Mais pas forcément. On peut prendre les deux chemins, hein, mais il n'y en a pas un forcément qui serait meilleur que l'autre.
Je pense, Pascal, qu'il y a une phrase qui est dans le livre de Yves-Alexandre Talman. Alors, c'est un autre ouvrage, hein, Devenir âme sœur aux éditions Jouvence, qui pourrait bien vous convenir, Pascal.
Oui.
Je vous l'ai dit telle quelle. Hein. En fait, il faut intégrer le fait qu'on est fait l'un par l'autre et non pas l'un pour l'autre. Intéressant.
Oui,
hein.
Oui, ça c'est. Non, mais j'apprends toujours plein de bonnes choses. Qui ne fait que.
Vous êtes d'accord, hein, Yves-Alexandre Talman, ça correspond bien à Pascal.
Je suis d'accord avec ce que j'ai dit, oui.
Vous êtes d'accord.
Oui, d'accord. Je prends bonne note pour.
Voilà,
pour
parce que.
Le libraire et de lire.
Voilà, peut-être que vous avez peur justement quand vous découvrez quelqu'un d'autre que ce que vous aviez imaginé. Qu'il vous fasse un peu bouger dans vos certitudes et dans votre attitude, voyez. Parce qu'une une relation qui évolue et qui continue et qui n'est plus dans l'état amoureux, ben ça nous fait bouger, hein.
Oui, complètement. C'est peut-être ça qui me freine un peu. C'est peut-être pour ça que mes relations aussi, je les choisis ou très loin ou très compliquées. Il y a
et
jamais
ben
des
voilà.
choses.
Bon, hein, on a bien compris, d'accord, hein. Bon, et ben reprenez vite quelqu'un et au boulot, Pascal. Hein,
voilà, et d'abord je vais lire le livre d'Yves-Alexandre.
Devenir âme sœur aux éditions Jouvence, voilà. Ben on va vous l'envoyer dédicacé. Voyez.
Ah ben avec grand plaisir.
Mais à une seule condition, c'est que vous y travaillez de manière positive. Hein.
Ah ben c'est ça, et je fais tout en ce moment.
Ah ben alors.
Et puis le fait de témoigner dans votre émission, ben c'est vrai que ça me donne d'autres clés de réussite pour sa voie personnelle. Et à ce moment-là, bien sûr, d'être mieux avec l'autre. Hein. C'est ce qui me manque aujourd'hui
dans
ma vie.
Vous méritez de recevoir
le
livre.
J'aimerais grandir aussi un petit peu.
Bon, avec un tuteur comme Yves-Alexandre Talman, vous devriez grandir assez vite. Merci en tout cas, Pascal. Oui, je crois que ça va bien convenir à Pascal, ce votre ouvrage. Hein, vous êtes d'accord?
Je crois que oui, effectivement. Mais ça heurte une idée que beaucoup de personnes se font de notre culture romantique, il faut quand même le dire. Il y aurait une personne qui nous convient dans cet univers, enfin, si possible, pas trop loin. Hein, alors qu'on va plutôt dans l'autre sens, hein, dans cet ouvrage, à savoir que on devient âme sœur, on ne naît pas âme sœur. Mais surtout, c'est à force d'être en interaction avec, en relation avec quelqu'un, qu'on s'adapte, qu'on se modifie, qu'on se bonifie, j'ai envie de dire, de façon aussi à créer une belle relation.
Caroline, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour Caroline.
Oui, je vous appelle parce que moi, je pense que s'il arrive justement, je peux rebondir positivement et que ça m'a pour un bien, mais il faut juste que personne n'en arrête ça. Voilà, on est ensemble depuis 21 ans. Mon mari, brillant chef d'entreprise, charismatique, vient d'avoir 40 ans. Il se pose énormément de questions. Il a peur de vieillir. Il a peur de... Voilà, là, on a tout réussi. 3 magnifiques enfants, une belle maison, une belle entreprise. Et là, il m'a annoncé il y a 10 jours qu'il était fou amoureux d'une de ses collègues de travail, qui a 12 ans de moins, sans enfant. Et il est prêt à... En fait, il s'achète une nouvelle vie. Il est prêt
à tout reconstruire.
Alors que c'est l'opposé de lui, de nos valeurs, de ce qu'on espérait pour nos enfants et tout ça. Et je pense que c'est, il a peur de vieillir tout simplement. Et je sais pas comment, on en parle énormément, mais je sais pas comment réussir à le persuader qu'il se fourvoie, je pense.
C'est compliqué pour vous de lui faire ouvrir, enfin de lui ouvrir les yeux. D'autant qu'il est pas malheureux là, il est dans un état d'euphorie qui ne lui donnera aucunement envie de se poser des questions.
Alors, il est malheureux parce qu'il ne veut pas me faire de mal, il ne veut pas faire de mal aux enfants. Il ne peut pas vivre sa relation avec, avec cette collègue puisqu'il se voit que dans le cadre du travail, il n'arrive pas à se voir en dehors puisque les soirs, je rentre à la maison, les week-ends, il est là. Il m'a dit qu'il me donnerait le temps qu'il faudrait. Donc, lui.
Mais Caroline, ce qu'il faudrait qu'on comprenne bien, c'est comment vous l'avez su ? Est-ce que c'est lui qui vous a dit tout ça ?
Alors, ça fait 2 mois que j'avais des doutes et j'ai réussi à le faire parler il y a 10 jours et c'est lui qui m'a dit que, voilà, qu'il en aimait une autre. Alors, il me dit qu'il m'aime aussi, qu'il est bien avec moi, mais il est fou d'elle.
Le terme fou, je crois, est bien choisi. Hein.
Oui, complètement.
On est fou d'amour, on est dans l'état amoureux qui nous fait voir les choses autrement. Voilà, je préconise une bonne dose de réalité, mais habituellement les gens amoureux n'aiment pas trop ça, c'est de lire les textes qui décrivent l'état amoureux et notamment ce qui se passe dans le cerveau amoureux et notamment le temps que ça prend et le fait que ça retombe forcément.
Alors ça peut aider. Est-ce que des livres, il est en train de les lire, mais j'ai vu que ça prenait généralement 18 mois, 2 ans avant de passer cette phase d'euphorie, de...
Enfin, tout dépend de ce qu'il va décider. Il peut très bien aussi décider de ne pas donner suite et puis il va être malheureux pendant quelques temps et puis ça va lui passer. Hein. Vous voyez, je veux dire, un état amoureux, ça s'entretient ou ça se casse. Hein.
Il y a des trucs et il y a des trucs pour le casser, mais bon, c'est lui qui doit faire ce cheminement-là. On peut pas lui le dire ou lui le conseiller. Mais en état amoureux, on idéalise notre partenaire. Si on commence à se focaliser sur ses défauts, c'est l'inverse du positif là. Hein. Mais on le fait en disant, j'ai envie de réduire cette euphorie que je ressens pour essayer de sauvegarder quelque chose d'autre qui est précieux à mes yeux. Pourquoi pas?
Mais Caroline, je crois que ce qui pourrait être intéressant en revanche pour vous, parce que vous avez besoin aussi de comprendre pourquoi il réagit comme ça à un moment, comme vous dites, où il y a tout. Je crois qu'il y a deux explications qui sont comme ça très très schématiques, mais qui peuvent vous aider. Soit c'est en effet la peur de la quarantaine où on passe de l'autre côté de la barrière en quelque sorte, et qu'à ce moment-là on se redonne un peu de jeunesse en sortant avec une femme qui a 10 ans de moins que soi, hein, et on repart dans un état d'adolescent en quelque sorte. Hein.
C'est exactement ça. Oui.
Mais ça peut aussi être aussi une sorte d'incapacité à apprécier pleinement la réussite et le bonheur, parce que finalement il a tout, c'est un homme qui a réussi tout, hein, sur le plan professionnel, affectif, et donc quelque part une sorte de lien de loyauté, par exemple par rapport à ses parents qui eux ont pas vraiment réussi, ou par rapport à... et donc à ce moment-là on se massacre.
Oui, c'est ça.
Et ça peut être ça. Et si c'est ça, là, je crois que ça serait intéressant qu'il aille en parler à quelqu'un pour s'autoriser à être heureux.
Alors ça, il refuse totalement.
Oui, mais si vous comprenez ce que je viens de vous dire, peut-être que vous allez avoir une attitude différente qui va peut-être le laisser entendre ce que je viens de vous dire. Vous
voyez, oui,
ce que...
c'est vrai qu'il me parle souvent de ses parents en me disant, mais de toute façon, enfin voilà, ils sont pas heureux, ils ont jamais été heureux. C'est vrai qu'ils sont
Donc, vous voyez, contrairement à ce que vous pensiez au départ, c'est pas la crise de la quarantaine, c'est une sorte d'incapacité à faire mieux que ses parents. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent, soit sur le plan amoureux, soit sur le plan professionnel. Si en plus c'est sur les deux plans qu'il réussit mieux que ses parents, c'est peut-être trop angoissant pour lui.
Et comment réussir à lui faire prendre conscience de tout ça?
Alors, je dirais qu'il y a une chose qui est importante, c'est tout ce qui est de l'ordre de la persuasion, de la culpabilisation, est à éviter. Au contraire, mais c'est des conseils faciles, plus vous prenez soin de vous, plus vous essayez vous-même de vous épanouir dans cette situation, de trouver, peu importe, d'autres sources d'intérêt et de plaisir, et plus vous êtes attractive à ses yeux. Par contre, vous essayez de le persuader, si vous le culpabilisez ou même si vous jouez à la personne très triste, très affectée, ça c'est pas très attractif pour quelqu'un.
Voilà, c'est ça. Oui, il vaut mieux que j'essaye de faire plein d'autres choses et du coup pour qu'il se rende compte qu'il a un risque de me perdre et du coup...
Oui, et puis peut-être que vous pouvez utiliser l'humour pour faire passer le message en lui disant « Oui, tu as raison, être plus heureux que tes parents, c'est pas possible. Tu as raison, je dois être j'ai été une femme trop formidable pour toi et j'aurais dû me conduire comme une petite garce. » Enfin, voyez, vous pouvez utiliser peut-être ce genre d'humour qui va peut-être parler à son inconscient Et à ce moment-là, oui. il va réaliser qu'il y a quelque chose en effet qui cloche dans son attitude. Parce que franchement, si votre vie sexuelle, amoureuse, familiale, professionnelle allait bien, il y a aucune raison qu'il tombe amoureux de quelqu'un d'autre. En général, quand un homme tombe amoureux de quelqu'un d'autre, c'est pour se redonner un peu, se refaire vibrer parce que justement avec sa femme, c'est un peu plan-plan, mais ça n'a pas l'air d'être le cas, si j'ai bien compris.
Bah oui, alors après oui, il trouve qu'il y a forcément un peu de routine, mais enfin notre routine, comme il dit, il sait bien qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir notre routine, entre guillemets, parce que c'est quand même pas... C'est pas métro, dodo, boulot,
donc
voilà,
servez-vous peut-être de l'humour pour faire passer ces messages-là.
D'accord.
Mais malheureusement, l'idéal, ce serait en effet qu'il aille travailler avec quelqu'un, mais il a aucune raison d'y aller. Je pense quand même, vous l'avez dit, hein, il a quand même pas envie de mettre tout en l'air, donc c'est peut-être jouable.
RMC, le meilleur de Brigitte Lahaie.
Bonjour Frédéric.
Et bonjour Brigitte et votre invité Michel Odoul. Mon histoire est un petit peu, on va expliquer un petit peu tout ça. Donc en fait, ça fait 15 ans que je suis dans le libertinage. J'ai rencontré ma femme dans un club libertin. Mm-hmm. Après ces 15 ans, on continue toujours à avoir bien sûr des relations libertines et autres. Et un jour, on a été dans une soirée libertine. Et j'ai rencontré une femme là-bas et qui a bouleversé ma vie.
Vous êtes tombé amoureux de cette femme, d'accord.
Tout à fait. Alors, entre-temps, c'est vrai que c'était un peu compliqué parce qu'on s'est mariés. Donc, cette femme-là, cette amie, puisqu'on la connaissait un petit peu, est venue chez nous pour fêter nos 1 an de mariage. Donc, c'est un petit peu compliqué. Et par rapport à ça, il y avait déjà un petit quelque chose. Mais elle était au courant, elle savait que, je pouvais... On avait cette liberté-là en tant que libertin, de pouvoir sortir avec d'autres amis, choses comme ça, et d'aller en club ensemble, avec couple interposé. C'est-à-dire, le mari acceptait que j'aille avec sa femme, et éventuellement, vice-versa. Et avec le temps, je sortais avec l'autorisation de ma femme.
Bien sûr.
Donc dans ces clubs libertins avec ses amis, et je suis tombé donc éperdument amoureux d'une femme. Et la résultante aujourd'hui, c'est que je vis donc la semaine à la maison avec on a des enfants également, et le week-end je suis avec ce qu'on pourrait appeler ma maîtresse ou
la femme que vous aimez, oui.
Tout à fait.
Et donc, votre femme est au courant de cette situation?
Elle est au courant, tout à fait, oui. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça pose quelques soucis parce que, elle se dit avec le temps, elle a peut-être fait cette erreur parce qu'elle l'admet aussi. Bon, elle a peut-être lâché prise à un moment donné. Bon, c'est vrai que dans ma vie, ça a été un peu compliqué. J'ai eu des gros problèmes de santé suite à un poids, un surpoids. J'étais en obésité morbide. Donc, je faisais 151 kilos du jour au lendemain. C'est pas du jour au lendemain, mais après opération, une sleeve. J'ai perdu beaucoup de poids. J'ai perdu plus de 50 kilos. Donc, fatalement, à un moment donné de ma vie,
Et là, vous remettez du poids sur le dos, si je puis dire.
Un petit peu ça. Avec d'autres complications, on va dire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu... Je ne vais pas dire que c'est compliqué, mais c'est vrai que la relation qu'on a avec ma femme, qui est devenue ma femme, est plutôt conflictuelle, puisque avec le temps, je commence à devenir de plus en plus... je reste de plus en plus chez mon ami. Avant c'était le vendredi, le samedi, dimanche.
Non mais Frédéric, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi vous quittez pas votre femme d'une manière officielle? Enfin, ça paraît assez clair dans ce qu'on entend.
Tout à fait, absolument. Ce qui est plus ou moins compliqué pour l'instant, c'est que on a acheté une maison ensemble, donc il y a d'autres choses qui sont greffées là-dessus. Bien sûr. Je pense que l'évolution va être dans ce sens-là, c'est-à-dire que
il y a un prix à payer, c'est ça?
Je pense, tout à fait. Aujourd'hui, on a un crédit sur le dos. Alors, attention, j'assume mon rôle de père toute la semaine, je suis là. J'assume aussi mon rôle de mari, entre guillemets.
Non, mais Frédéric, ne vous culpabilisez pas tout seul. On n'a rien à vous reprocher. On est là pour vous aider à voir un peu plus clair. Et je suppose que c'est pour ça que vous nous appelez.
Absolument.
Mais je pense qu'en effet, votre situation n'est pas viable pour vous. Vous semblez en souffrir et elle n'est certainement pas viable pour l'entourage.
Je pense qu'il y a aussi un un moment donné, je pense peut-être par rapport au surcroît de poids et autres, on ne faisait plus l'amour avec ma femme. C'était une fois par mois, comme on disait, j'ai entendu un petit peu vos témoignages il n'y a pas très longtemps. Justement, c'était une fois par mois, voire des fois tous les 2-3 mois. Et je pense que j'en ai souffert, non pas personnellement, mais elle aussi, parce que voilà, j'étais... Ce que moi j'appellerais plus ou moins une loge.
Vous savez, excusez-moi Frédéric, mais quand on trouve plein d'excuses, c'est qu'on est débordé Exactement, de culpabilité. Voilà. Donc je pense qu'il faut que vous soyez un peu plus tranquille avec vous-même. Alors c'est sûr que c'est certainement compliqué pour vous d'aborder les émotions et surtout les émotions des autres, mais aussi les vôtres. Et c'est peut-être pour ça que vous aviez été en surpoids à un moment donné, parce que c'est aussi une belle manière de se protéger de ses émotions. Mais écoutez, vous vous êtes fait aider pour perdre les kilos. Là, on vient de vous aider. Il faut que vous arriviez également à trancher. Alors, prenez peut-être un tout petit peu de temps, mais il faut absolument que vous sortiez de cette situation qui n'est pas bonne pour vous, on l'entend bien. Merci en tout cas Frédéric.
Sur RMC, ne ratez rien de l'AL Amourez-vous. En podcast avec l'appli RMC et sur rmc.fr. RMC, Brigitte Lahaye, Love Conseil.
Alors, est-ce qu'il faut tout se dire en amour? C'est vrai que la mode est à la transparence et depuis que Internet a envahi notre espace intime, on a un peu tendance à croire qu'il faut tout se dire. Et je crois qu'il faut rappeler que cette croyance qu'il faut tout se dire, c'est une pensée très idéaliste et qui peut faire beaucoup de tort à la société et qui peut aussi faire beaucoup de tort à une relation amoureuse. Alors, c'est certes, le mensonge est souvent vécu comme une trahison, mais déballer tout ce qui se passe par la tête sous prétexte qu'on s'aime, c'est quand même assez immature. Vous savez, c'est le petit enfant qui rentre et qui veut tout raconter à sa maman ou à son papa, tout ce qui s'est passé à l'école, tout ce qui a été, etc. Et puis, très vite, quand il commence un petit peu à grandir, il apprend à ne pas tout dire à ses parents, à la fois pour les protéger lorsqu'il a une pensée négative pour l'un ou l'autre de ses parents, parce que, par exemple, son papa n'a pas accepté de lui acheter son jouet, machin. Tout d'un coup, il pense, papa, je t'aime plus. Il va pas lui dire. Hein. Donc l'enfant très très jeune apprend à se protéger. Et puis il a aussi envie de garder pour lui des émotions, des sentiments. Donc il prend une certaine distance. Donc pourquoi quand on est adulte et qu'on est amoureux ensemble, il faudrait tous se raconter. Donc c'est quand même une nostalgie de l'amour fusionnel inconditionnel. Je crois que deux êtres qui s'aiment, qui sont adultes, ils ont des aspirations communes. Donc ils peuvent parler, communiquer ensemble de tout ce qui est commun. Et puis ils ont aussi des divergences, ils ont leur jardin secret. Et c'est pas inutile de tout mettre en commun. Voilà, on peut taire ce qui va nous éloigner. Et si on s'aime vraiment, eh bien justement, ne pas tout se dire, c'est protéger la relation. Mais ça demande en effet un peu de maturité. Et j'ai bien peur que notre société qui aujourd'hui prône la transparence soit peut-être une société en train de devenir un peu immature. Voilà, essayez peut-être d'y réfléchir un tout petit. Christophe Hague, merci d'être là. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage Vox Confidential aux éditions Michel Lafon, ouvrage auquel j'ai participé. C'est assez intéressant parce qu'en fait vous êtes docteur en comportement organisationnel. Voilà, moi je sais pas trop ce que ça signifie.
Chercheur en sciences du comportement.
Ah, ça me paraît plus simple pour tout le monde. Et vous avez eu envie donc de vous intéresser au mystère de la voix. On a tous une voix différente, il n'y a pas deux voix pareilles.
Alors, il y a un vrai débat au sein de la communauté scientifique. Faut savoir quand même qu'en règle générale, la voix, elle est aussi directement liée au contexte. Donc, et également à l'émotion que va renvoyer ce contexte. Donc, elle n'est pas totalement invariable, ça n'existe pas une voix unique. En revanche, voilà, il y a tout un tas de critères qui vont nous définir, etc. Mais l'émotion va être, si vous voulez, le pilote du véhicule vocal. Donc, c'est l'émotion qui va vraiment façonner le passeport vocal.
Et alors, moi, en tout cas, ce qui me concerne, j'en sais quelque chose. Ma voix a énormément évolué depuis que je suis adolescente. Hein. Donc, notre voix aussi, elle va suivre notre évolution. Plus on va être finalement à l'aise, par exemple, Sylvain Mimoun disait qu'il aimait bien sa voix. Est-ce que c'est vrai? Plus on va être bien avec soi, plus on va aimer sa voix?
Tout à fait. D'ailleurs, vous avez parlé de la période de l'adolescence. C'est à ce moment-là que vous allez avoir la voix des jeunes filles qui va s'enrichir en harmonique aiguë. Et à ce moment-là que vous allez avoir la la voix des garçons qui va descendre vers les graves. Donc ça, c'est une première étape. Et puis ensuite, vous allez avoir tout un tas d'expériences de vie, d'expériences émotionnelles qui, à nouveau, eh bien, vont venir un petit peu façonner, tailler cette voix qui va vous définir toute votre vie. Et puis, passer un certain âge également, ce qui est un petit peu poétique dans cette histoire de la voix, c'est que la voix des femmes et la voix des hommes va se rejoindre en termes de fréquence. La voix des hommes va virer un peu plus vers les aigus, des hommes âgés, et la voix des femmes âgées va virer un peu plus vers les graves, et ils vont comme ça être
à l'unisson. Ah, on parle après avec une grosse voix.
Tout à fait.
Bon, en tout cas, dans ce livre, Christophe Haag, vous parlez franchement qu'il y a des voix sexy et des voix qui ne le sont pas.
Tout à fait. Alors, on va commencer par la gente féminine. Mmh. Vous avez tout un tas d'études en neurosciences sociales, en psychologie sociale, qui vous montrent que les voix aiguës des femmes pendant les périodes de séduction, eh bien, marchent très très bien. Et d'ailleurs, durant la période préovulatoire, eh bien, vous allez avoir les femmes qui vont sans la voix des femmes qui va s'enrichir, pardon, en harmonique aiguë. Donc c'est un signal qui va être envoyé au cerveau reptilien de l'homme, et ce signal, eh bien, il est imprimé dans le cerveau, c'est une séquence de comportement qui est héritée de nos ancêtres. Donc c'est un vrai signal qui dit bon, ben maintenant, il y a une sorte d'ouverture. Et ce qui est également marrant, c'est que à la période préovulatoire, donc à la saison des amours, vous avez également les femmes qui développent une hyper-empathie par rapport à la voix des hommes, et elles détectent beaucoup plus facilement les messages cachés, les intentions et les émotions des hommes. Donc ça, c'est pour les voix de femmes. Alors, les voix graves de femmes marchent très bien dans certains contextes, et notamment dans des contextes de pouvoir. On voit en entreprise, dans les plans de succession, lorsqu'on cherche à repérer les futurs dirigeants de demain, on remarque que les femmes à la voix grave ont plus leur chance que les femmes à la voix aiguë. Donc c'est intimement lié également à la posture.
Oui, c'est ça, le chef a une voix tout à fait qui s'impose.
Hein, et voilà, et vous avez plein d'anthropologues qui ont travaillé là-dessus, le chef de tribu, le chef politique, le chef d'entreprise, etc., etc. La voix grave, elle renvoie à une image de dominance, de maturité et de bonne santé aussi.
On pourrait aussi parler de la voix des hommes politiques qui ont marqué l'histoire. C'est souvent des voix, en effet, qui ont aussi beaucoup de puissance. Hein.
Tout à fait, on peut penser à celle de Gaulle, et on peut penser également à celles qui ont failli manquer l'histoire, comme par exemple celle de François Hollande, qui a été coaché par un prof de la Starac. Et ce prof de la Starac, alors que François Hollande est à la limite de l'aphonie durant la candidature à la candidature, eh bien, lui a donné tout un tas de techniques, eh bien, pour sauver sa voix. Et notamment en conférence, parce que François Hollande respirait mal, il allait dans les aigus, donc on lui a dit de boire un petit peu moins de vin blanc, moins de café, moins de thé, de respirer un petit peu plus par le ventre, etc. Et c'est comme ça qu'il a pu préserver sa voix.
Oui, vous donnez d'ailleurs dans ce livre Vox Confidential, Christophe Haag, des conseils, hein, pour améliorer sa voix. Nous qui travaillons beaucoup à la radio, par exemple, on le sait, il faut boire de l'eau tout au long des deux heures d'antenne pour que la voix justement ne s'assèche pas.
Tout à fait, boire de l'eau en période hivernale, bien se couvrir également la gorge, éviter, comme je vous l'ai dit précédemment, café, thé, vin blanc, éviter un repas très épicé juste avant une intervention.
Tout ce qui va irriter finalement les cordes vocales.
Tout à fait, parce que, et en même temps, au-delà de ça, c'est la gestion émotionnelle qui est hyper importante. Parce que si vous vous laissez déborder par une émotion, tout ça va avoir un impact sur la voix. J'en reviens à ce que je disais précédemment. Prenez le cas de l'angoisse. Lorsque vous êtes angoissé, eh bien, vous allez avoir des remontées acides qui vont venir imprégner les cordes vocales. Il va y avoir une inflammation des cordes vocales. Le larynx va se contracter. La gorge va se serrer et votre voix sera brisée.
Alors, une question qui va intéresser énormément les auditeurs qui nous écoutent. Est-ce qu'on peut entendre au téléphone, par exemple, quand notre partenaire nous appelle, s'il est en train de nous mentir ou pas?
Alors, certaines personnes, oui. Et ces personnes, comme vous, oui. Brigitte Lahaye, dotées de cette hypersensibilité auditive, vont repérer tous ces signaux faibles que porte la voix. Donc ces signaux faibles, ça va être l'émotion, l'état d'humeur, l'intention. On peut même détecter à la voix, en quelques millisecondes seulement, les préférences sexuelles de quelqu'un. Donc vous avez des gens qui sont doués de cette hypersensibilité. Et là, vous avez notamment le négociateur du RAID qui témoigne également dans le livre et qui, lui, arrive à déterminer comme ça à la voix la dangerosité d'un forcené, d'un preneur d'otages. Et il se compare d'ailleurs à Jean-Baptiste Grenouille, ce héros fictif du roman
Le Parfum.
Le Parfum. Oui. Alors lui, il avait une hypersensibilité olfactive, Coppen, et vous, Brigitte, vous avez une hypersensibilité auditive qui vous permet d'activer une zone dans le cerveau. Cette zone, elle s'appelle STS, donc c'est le sillon temporal supérieur, qui va envoyer tout un tas d'informations à votre cerveau intuitif, et vous tenez compte de ces informations-là. Vous avez des personnes qui ne tiennent pas compte de ces informations-là, et pire, vous avez des personnes qui ne vont avoir aucune activation de cette zone-là, et je pense notamment aux personnes avec autisme. Les personnes, vous avez tout un tas d'études qui montrent que les personnes avec autisme n'arrivent pas à déchiffrer le Da Vinci Code de la voix parce qu'il n'y a pas de sollicitation de cette zone cérébrale.
En revanche, pour une personne entre guillemets normale, elle peut développer plus ou moins, mais c'est un entraînement comme pour le reste.
Aujourd'hui, il y a une découverte quand même majeure en neurosciences sociales qui elle a un nom, cette découverte, c'est la plasticité du cerveau
bien
humain.
Sûr.
Eh bien oui, le cerveau, c'est comme l'univers, c'est comme un accordéon, c'est malléable, c'est extensible, et on peut, grâce à des expériences émotionnelles, grâce à des formations, on peut développer tout ça.
Et est-ce que notre voix, au fond, va évoluer plus ou moins en fonction aussi de nos émotions, c'est-à-dire que plus on va être capable de gérer bien nos émotions, plus notre voix va se poser finalement.
Tout à fait. Et puis en même temps, on a intérêt également à le faire parce que les émotions contenues dans notre voix, elles sont extrêmement contagieuses. Alors imaginez l'émotion de la dépression. Mais vous avez des études aujourd'hui qui montrent que les personnes qui gèrent difficilement leurs émotions, qui sont peut-être plus sujets à des maladies psychosomatiques, à du burn-out, à de la dépression, etc. Eh bien, ces personnes sont extrêmement contagieuses pour leur environnement proche. Et vous avez une étude qui vous montre que avoir un ami dans un cercle proche qui se sent psychologiquement ou physiquement isolé et qui est dépressif et avec qui vous interagissez au téléphone, donc via le canot voix, eh bien, cette personne va avoir une influence sur vous et va augmenter de 40 à 65% le risque de vous sentir vous-même isolé et dépressif.
On imagine bien que des personnes qui travaillent, par exemple, SOS Amitié, tout ça, sont aussi très sensibilisées aux voix. Ils entendent quand quelqu'un est vraiment au bord du suicide, par exemple, ou pas, je suppose.
Tout à fait. Alors, il y a des signaux. Alors, ils le font intuitivement. Il y a des machines aujourd'hui qui sont capables de le faire, des systèmes, des logiciels. C'est quoi une voix dépressive? C'est une voix avec un débit très lent, qui est généralement inférieur à 4 syllabes par seconde. C'est une voix avec des temps de pause très longs, avec une intensité sonore qui est extrêmement basse. Bon, bref, vous avez tout un tas de paramètres qui définissent ce qu'est une voix dépressive et donc qui définissent d'une certaine manière l'état dépressif de la personne.
C'est la respiration finalement le grand améliorateur de la voix au fond. Plus on va respirer profondément, tranquillement, avec le bas-ventre, mieux.
Tout à
mieux
fait.
Ce
alors,
sera.
Moi j'ai écrit d'ailleurs ce livre parce que je respire mal, j'ai développé un œdème au niveau des cordes vocales, je me tiens
oui,
mal.
On n'est pas gentil avec votre voix dans le livre.
Non, mais justement c'est sur la base de ce bilan phoniatrique que je me suis dit mince, je vais quand même un petit peu m'intéresser à tout ça parce que je finissais mes conférences dans un état de fatigue extrême, tout simplement parce que je respirais mal. Oui, la respiration est hyper importante, mais on peut faire un travail également au niveau des résonateurs. Les résonateurs, c'est la bouche, la gorge, les fosses nasales. Vous pouvez, avec un orthophoniste ou avec un médecin phoniatre, travailler tout ça. Et la bonne nouvelle, à titre personnel, mais peut-être pas pour à titre collectif, c'est que tout ça est remboursé par la Sécurité sociale. Donc on peut aller consulter et c'est remboursé.
Nous avons Jérôme qui est avec nous et qui a une question à vous poser, Christophe Hague. Bonjour Jérôme.
Oui, bonjour Brigitte, bonjour Christophe.
Bonjour Jérôme.
Voilà, je m'interrogeais en fait par rapport à la voix et je voulais savoir si selon vous c'était la voix qui était plutôt qui reflétait la personnalité de l'individu ou si c'était plutôt l'inverse selon vous.
Alors la voix va pas forcément refléter la personnalité, mais à nouveau elle va refléter un état émotionnel. Donc elle va pas, la personnalité ce sont des choses, des traits qui sont très figés, etc. Par contre les émotions c'est plus variable, ça dépend du contexte, tout ça. Donc c'est la voix qui va être le véhicule des émotions. Et d'ailleurs c'est l'un des véhicules les plus rapides qui soit avec le faciès humain. Donc les émotions exprimées à travers la voix et les émotions exprimées à travers le visage sont les émotions les plus facilement détectables. Et d'ailleurs, le cerveau humain les reconnaît quasi en même temps. Et quand je dis en même temps, c'est en quelques millisecondes. Donc c'est la voix qui transporte L'émotion.
Mais, et d'ailleurs, un jour, j'avais proposé un love conseil, Christophe Hague, de donner au couple la possibilité de se parler, mais dos à dos, c'est-à-dire sans se voir, pour justement, ça change la manière de communiquer. À partir du moment où on va se parler dos à dos, tout en étant quand même présent, parce qu'on pourrait dire qu'on peut aussi se parler par téléphone, mais c'est pas tout à fait la même chose.
Eh bien, vous avez des études aujourd'hui qui confirment votre conseil, parce que en faisant ça, vous allez éliminer tout un tas d'autres facteurs biaisants comportementaux, et vous allez vous focaliser exclusivement sur la voix, et il y a beaucoup de choses qui vont transpirer.
Sur ce qui se dit, donc.
Exactement, tout absolument. À fait.
Christophe Hague, vous connaissez un peu les voix de RMC?
Alors oui, enfin, celle de Moscato, de la vôtre.
Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire, alors, des voix de RMC?
Alors, elles sont toujours différentes, et à nouveau, elles sont liées au contexte.
Oui.
Donc vous êtes dans une émission qui est beaucoup plus posée, où on est à l'écoute des individus, donc la voix prend le rythme également et entre en résonance avec ce contexte, donc le rythme se ralentit, on est plus dans l'émotionnalité, et puis vous avez des émissions qui sont des émissions plus coup de poing, où à un moment, voilà, vous allez avoir des grandes gueules, alors les grandes gueules c'est chez vous, où on va essayer d'imposer un petit peu comme l'alpha dominant, eh bien un passeport vocal, et bien là le rythme est différent, les émotions sont différentes, donc voilà, donc à nouveau tout est lié au contexte, et donc vous avez une palette de voix aussi large que la palette d'émotions qui envahit les studios d'RMC.
En revanche, très souvent, j'entends un auditeur qui a la voix qui change parce que justement, l'échange que nous avons ensemble le fait évoluer dans son émotion. Nous avons, on a beaucoup d'appels. On va essayer de donner la parole. Marc, bonjour.
Bonjour Brigitte, bonjour Christophe.
Bonjour Marc.
Je voulais simplement, je me posais la question, à savoir pourquoi certaines personnes étaient obligées de parler, de s'exprimer pendant l'acte sexuel, tout simplement.
Alors là, vous avez une étude qui est parue en 2011, une étude qui a été menée par deux psychologues anglaises, une étude qui a été menée sur 71 femmes âgées de 18 à 48 ans. Et donc vous aviez, résultat de recherche, 87% des femmes interrogées qui disaient gémir et augmenter l'intensité sonore de leur voix pendant l'acte, d'une part pour encourager le partenaire, un petit peu comme la cavalière avec sa monture, mais également pour se conditionner émotionnellement parlant. Donc il y a ça. C'est une explication, c'est un sondage. L'autre cas de figure, ou l'autre explication, c'est également le calibrage vocal. On a tous des moteurs vocaux qui sont différents. Imaginez le bruit produit par un moteur de Harley Davidson versus le bruit du moteur produit par une mobylette. Donc on n'a pas la même caisse de résonance. Donc vous avez des personnes pendant l'acte qui peuvent avoir naturellement une voix projetée et d'autres qui vont avoir une voix naturellement douce. Et l'autre explication, celle qui moi me convainc le plus, à nouveau je renvoie à l'émotion, c'est l'expressivité émotionnelle. Vous avez des gens qui, dans cet acte, qui bullent émotionnellement, vont se dire, bah voilà, il y a un lâcher prise qui s'opère, je libère mes émotions, et d'autres personnes, de par leur éducation, leur tabou intériorisé, vont se dire, bah non, là je ne m'autorise pas à me lâcher.
D'accord.
Et donc là, je serai en dissonance totale, finalement, avec l'acte. Et quelque part, j'envoie un message à l'autre, qui est celui-ci, cet acte-là n'a peu d'importance pour moi. Donc vous voyez, il y a à nouveau un lien très fort entre émotionalité et contexte.
Donc on peut dire simplement que, en fait, ceux qui ne disent rien ou qui disent peu de choses se lâchent beaucoup moins que ceux qui parlent, tout simplement.
Et d'ailleurs, je fais le pari que les personnes qui ont une expressivité émotionnelle très pauvre, donc en jachère pendant l'acte sexuel, sont douées d'un niveau d'intelligence émotionnelle extrêmement bas.
D'accord.
Parce que l'intelligence émotionnelle, elle renvoie à l'empathie, vous faites un check-up émotionnel de la situation, mais en même temps, après, en retour, vous devez vous-même exprimer des émotions pour faire vivre cette situation-là. Eh bien, le simple fait que ce rouage, à un moment, il soit enrayé, il ne fonctionne pas, eh bien, montre que d'un point de vue compétence émotionnelle, il y a un petit couac. Mais le message d'espoir, c'est qu'on peut travailler ses compétences émotionnelles et d'ailleurs que les personnes qui travaillent ça sont des personnes qui sont moins sujettes au stress, sur des échelles de qualité de vie, que ce soit perso ou pro, se sentent très très bien, sont moins sujets à des maladies psychosomatiques, à des insuffisances coronariennes. C'est une étude qui est parue en 2011 et qui révèle ça, une étude très sérieuse. Donc moi, je vous invite à lâcher prise.
Mais en même temps, c'est pas si simple que ça, parce que pour beaucoup de personnes, sexualité et émotion, sentiment, c'est difficile. Il y a un petit clivage. Je pense notamment à beaucoup d'hommes qui ont beaucoup de mal à parler d'amour pendant qu'ils sont dans la sexualité, parce que ça les coupe un peu. Mm. Bon, donc voilà. Après, évidemment. Mieux on se lâche, mieux on est, mais c'est pas aussi simple que ça.
Et ça veut pas forcément dire hurler, parce que l'acte, vous avez des intensités émotionnelles qui diffèrent d'un acte sexuel alpha à un acte sexuel bêta. Il s'agit simplement juste d'être en résonance avec l'intensité même de l'acte. Donc on hurlera pas à chaque fois, c'est pas ça l'idée non plus.
RMC, le meilleur de Brigitte Lahaie. N'oubliez pas, RMC s'écoute aussi sur le câble et le satellite.
Et un petit tour du côté de rmc.fr, Christophe, avec oui. Mehdi qui m'envoie ce mail. Je vous écoute, j'ai moi-même un garçon qui a 13 ans. C'est très compliqué de l'empêcher d'être sur son smartphone. Et j'aurais aimé quelques conseils de votre coach, merci.
Je comprends Mehdi, parce qu'il y a un vrai problème d'éducation en la matière. Et Mehdi, d'abord, vous n'êtes pas le seul. Vous savez, il y a beaucoup, beaucoup de parents qui s'arrachent les cheveux, parce que, Brigitte, en moyenne, maintenant, les enfants à partir de 13 ans passent 7 heures par jour devant des écrans. Et à quoi jouent-ils? Effectivement, ce sont des gamers, des joueurs, ils jouent aux jeux électroniques, Brigitte, je vous vois
oui,
déjà.
Parfois, on peut utiliser un mot français.
Me chambrer là. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui faire? D'abord, Mehdi, je vais lui dire, est-ce que vous aussi, vous êtes joueur? On aimerait bien vous poser la question. On vous a pas, malheureusement, à l'antenne, mais, parce qu'il peut s'identifier à papa. Peut-être que vous êtes joueur. Beaucoup d'adultes sont joueurs. Si vous n'êtes pas joueur, je parle de joueur aux jeux électroniques, Brigitte, il faut absolument emmener votre enfant le plus souvent possible faire des activités, comme dirait Brigitte, en réelle présence, faire du sport, du cheval ou du foot ou un sport collectif. Ça, c'est un. Deuxièmement, sortir, Brigitte.
Oui.
Sortir avec lui, c'est-à-dire que nos enfants sont des digital natives. Effectivement, il a 13 ans, votre enfant. Il est né avec Internet, il est né avec les écrans et on n'arrête pas le progrès. Brigitte, vous l'avez dit fort justement tout à l'heure. C'est parti là, on est embarqué. Mais, Mehdi, vous avez raison. Il faut faire attention à ce qui ne reste pas trop longtemps, parce qu'il y a un phénomène, vous le savez, Brigitte, au Japon.
Oui, on peut poser des restrictions.
Au Japon, il y a un phénomène qui s'appelle l'hikikomori, Brigitte. Ouais, c'est une pathologie, vous le connaissez. Les mômes, ils restent des mois entiers, je pèse mes mots, dans leur chambre. Ils ne veulent plus sortir.
En tant que parent d'un enfant de 13 ans, on peut poser des interdits.
On est bien d'accord.
Et on a tout à fait le droit et on fait respecter.
On fait respecter.
Absolument. Et parallèlement, évidemment, apporter du plaisir, une compensation, si je puis dire, moins d'écran, et plus de plaisir à partager ensemble et en général on peut retrouver un certain équilibre qui favorisera votre relation en plus.
RMC Lahaie, l'amour et vous, Brigitte Lahaie.
Nous écoutons Virginie.
Bonjour Brigitte.
Vous avez 37 ans et votre compagnon a un fantasme, donc
oui.
C'est pour lui qu'il voudrait donc un jouet intime anal.
Oui, voilà, tout à fait. Donc ça fait quelque temps en fait. Ça fait un moment qu'il m'avait parlé de ce désir qu'il a, de ce fantasme-là. Bon, moi, j'avais pas prêté attention à plus que ça, voilà, parce qu'on est tous pris dans nos vies, et c'est pas toujours évident de se trouver des moments où on peut se lâcher. Vraiment pour se faire plaisir au niveau du couple, hein, c'est pas toujours facile. Donc voilà. Et depuis quelque temps, on s'est rapproché au niveau intime. Et c'est vrai que j'ai accédé, on va dire récemment, à son fantasme, qui était
d'être pénétré par vous avec un jouet.
Voilà, exactement. Donc voilà. Après, par rapport à ça, il a été très satisfait. Forcément et très content de cette expérience, cette première expérience. Mais moi, par rapport à tout ça, hein, parce que mon désir, bien sûr, c'est de le satisfaire et qu'il s'épanouisse à ce niveau-là. Mais si j'avais quand même une question et quand même une crainte par rapport à ces désirs particuliers, c'est est-ce que quelque part ça cache pas une envie, on va dire, homosexuelle ou quelque chose comme ça, parce que vraisemblablement il aimerait aller un petit peu plus loin dans cette expérience.
Qu'est-ce que vous appelez aller plus loin dans cette expérience? Vous voudrez le faire plus souvent?
Plus souvent, oui, ça c'est quelque chose qu'il aime. Mais c'est vrai que moi, après, en tant que compagne, je me dis peut-être qu'en fait ça cache des désirs en fait homosexuels, tout simplement, quoi.
Alors Virginie, vous avez quel rapport vous à la sodomie?
Comment?
Par rapport à vous, par exemple, qu'est-ce que vous en pensez, par exemple, si vous demandez de vous sodomiser, qu'est-ce que ça vous provoquerait?
On le pratique régulièrement, donc c'est pas un souci. En fait, c'est le facteur inverse qui est un peu moins naturel pour moi, si je peux dire, et que j'ai pas forcément pratiqué avant, donc.
D'accord. Mais vous, voilà. vous ressentez du plaisir à cette pratique?
Tout à fait, oui, tout à fait, bien sûr.
Bon, donc déjà, vous pouvez accepter qu'on puisse avoir du plaisir à être éventuellement pénétré.
Oui, bien sûr.
Alors, il y a quoi dans ce désir chez un homme? Il y a beaucoup de choses. Et pourquoi pas aussi un fantasme homosexuel? Mais je dis bien, encore une fois, un fantasme. Hein, on n'est pas dans la réalité. Mm-hmm. Alors, il y a évidemment le plaisir que ça procure. Et ça procure souvent beaucoup de plaisir à un homme parce que ça stimule également la prostate, ce qui n'est pas le cas pour nous. Mais nous, ça stimule le point G. Donc, on va dire qu'on est à peu près équivalent. C'est même peut-être la seule pratique sur laquelle on est équivalent, homme et femme. Mm-hmm. Bon, ensuite, ce qui me pose problème dans votre témoignage, c'est qu'on sent bien qu'au fond, vous le faites pour vous, pour lui faire plaisir, mais que ça ne vous excite pas.
Ah si, bien sûr, parce qu'après je découvre aussi cette pratique-là, donc c'est sûr que voilà, alors, si ça fait un peu de temps bon. Aussi, donc c'est pas quelque chose qui me déplaît du tout. Après,
bah alors si ça vous déplaît, alors voilà, écoutez Virginie,
c'est quelque chose qui me plaît, voilà, donc alors, je pense.
C'est juste le fait que vous ayez peur que peut-être avec le temps ça l'emmène vers l'envie d'avoir un homme, c'est ça?
Voilà, ouais, tout à fait. Mmh.
Bon, eh ben écoutez, je crois que on peut pas de toute façon savoir comment un désir va évoluer. Mais dans votre cas, c'est bien à vous qu'il a demandé, il a pas été voir un prostitué pour avoir un rapport homosexuel. Donc je pense que c'est plus un plaisir à la fois d'être soumis, d'être dominé donc par sa partenaire. Et un plaisir purement, j'allais dire, physique. Mm-hmm. Voyez ? Donc,
d'accord.
Prenez ça vraiment comme un jeu où tout d'un coup, c'est vous qui pouvez être le mâle dominant, entre guillemets. Hein? Mm-hmm. Et puis, oui. Amusez-vous. Et puis, voilà tout. Ne vous posez pas plus de questions qu'il n'en faut.
D'accord.
Parce
d'accord,
que sinon, vous risquez d'être moins excité, de le faire à contre-cœur. Et ça va nuire à votre sexualité à tous les deux. Je crois qu'il y a une vraie confiance, vous savez, de la part d'un homme pour oser demander ça à sa compagne.
Oui, c'est vrai.
Donc, il faut voir ça comme vraiment une preuve d'une bonne sexualité, d'une bonne complicité entre vous, et puis pas aller chercher plus loin.
D'accord, très bien. Bah, merci pour vos conseils.
Je vous en prie, Virginie. Merci
bonne
à vous.
Bonne journée, au revoir.
Au revoir. Et nous continuons avec Marc qui est avec nous. Bonjour, Marc.
Bonjour. Alors, ce que je vous explique, j'ai encore la chance d'avoir mon père qui a 90 ans
oui.
et ma mère qui a 88 ans. Mm-hmm. Il y a encore 5 ans, ma mère était sur son mobilhome en train de nettoyer le dessus du mobilhome avec un jet d'eau et la brosse. Donc c'est une femme très très énergique. Donc j'ai eu un garçon d'un deuxième mariage qui a eu 18 ans au mois d'août. Et il y a de ça 6 mois à peu près, elle dit « Charles, le jour où tu auras 18 ans, tu m'emmènes dans un sex shop ». Il l'a emmené dans un sex shop il y a de ça 15 jours, 3 semaines. Elle a été dans le sex shop avec le fiston. A touché à tout. D'après ce qu'il me racontait, a touché à tout, a été émerveillée, elle était radieuse, elle était contente, et pour une fois, eh ben, il y a un de ses petits-fils qui lui a fait plaisir.
Bon, j'espère, Marc, que vous attendez pas après l'héritage, parce que du coup, elle en a encore pour 10 ans d'être en pleine forme. Hein.
Oh là 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 là, écoutez, excusez-moi l'expression, vous mettez deux ou trois divisions de Panzer SS devant, ils sont obligés de décrocher. C'est une femme super énergique. Elle rentre à la maison, elle bouge tout, qu'est-ce que vous avez préparé à manger? Mais attendez, je vais le faire, qu'est-ce que vous avez dans vos tiroirs? C'est une femme merveilleuse. Une mère comme ça, il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. Et elle a trois petits-fils, quatre petits-enfants, elle est contente comme tout. 88 ans, elle est formidable.
Mais ce qui est formidable surtout, c'est qu'elle a demandé à son petit-fils, elle n'a pas demandé à son fils, elle a respecté le...
Oui.
Ça aurait été délicat pour son fils, finalement, pour vous peut-être, alors que son petit-fils, c'est drôle.
Nous, non, parce que ma mère, on est deux garçons, hein, mon frère et moi, mon frère a 65 ans, moi bientôt 60, c'est elle qui nous a fait notre éducation sexuelle. À table, en mangeant la soupe. Tout était libre à la maison, on parlait de tout. Il n'y avait pas de tabou.
Et ça a été visiblement une bonne éducation.
Ah, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Très respectueux de nos parents.
Alors, moi, je veux tout savoir, Marc, est-ce qu'elle a acheté quelque chose au sex shop?
Alors, justement, mon fiston devait le soir même faire un anniversaire surprise à une petite copine, quoi, une copine, une relation, une amie, où ils étaient plusieurs pour ses 18 ans, et ils s'étaient tous décidés, tous ses copains et copines, de lui acheter un petit canard. Et il a acheté le petit canard, et la grand-mère, bien sûr, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a payé le petit canard pour l'offrir à sa copine.
Mais pour elle, est-ce qu'elle a acheté quelque chose?
Non.
Une curiosité.
Non.
Remarquez, elle a encore son mari.
Oui, mais 90 ans, 88 ans, comme a dit maintenant, le sexe, hein, c'est plus loin derrière moi. Hein. C'est loin derrière moi. Mais bon, elle a eu cette initiative, je trouvais ça sympathique. Et puis, les quatre petits-enfants sont très très libres avec leur grand-mère, ils parlent de tout aussi, même de leurs relations sexuelles, de leurs amours, de leurs déceptions. C'est une femme extraordinaire, extraordinaire.
Mais merci
le
en
jour
tout cas.
Le jour appartira, je vous dis, ça fera un très très grand vide.
Ben, c'est toujours un grand vide, cela dit Marc, pour tout le monde, quand sa mère s'en va. Mais merci en tout cas d'avoir témoigné, Marc, merci beaucoup.
Merci à vous.
Sur RMC, ne ratez rien de l'AL Amour et vous. En podcast avec l'appli RMC et sur rmc.fr.